Le Petit Prince de Saint-Exupéry, partie 2. Chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple, cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tout le monde, tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi, que je te vois mieux !» lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le petit prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. »
« Ça m'intimide, je ne peux plus, » fit le petit prince tout rougissant.
« Hum hum, » répondit le roi. « Alors je t'ordonne tantôt de bâiller, tantôt de... » Il bredouilla un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, » disait-il couramment, « si j'ordonnais à un général de changer un oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute.
Puis-je m'asseoir ?» s'enquit timidement le petit prince.
« Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?«
Sire, » lui dit-il, « je vous demande bien pardon de vous interroger.
« Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi.
« Sire, sur quoi régnez-vous ? »
« Sur tout, » répondit le roi avec une grande simplicité.
« Sur tout ?»
Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles.
« Sur tout ça ?» dit le petit prince.
« Sur tout ça, » répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel.
« Et les étoiles vous obéissent ?»«
Bien sûr, » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt, je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans jamais avoir à tirer sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste, à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à le solliciter une grâce du roi.
« Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au coucher-soleil de se coucher. »
« Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre absolu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ?»«
Ce serait vous, » dit fermement le petit prince.
« Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.
« Alors, mon coucher de soleil ?»
rappela le petit prince, qui jamais l'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. « Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je ne l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables.
« Quand ça sera-t-il » s'informa le petit prince.
« Hum, lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. « Hum, ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. » Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Puis il s'ennuyait déjà un peu.
« Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. »«
Ne pars pas, » répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »«
Ministre de quoi ?»«
De la justice. »«
Mais il n'y a personne à juger. »«
On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Et je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. »
« Oh, mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince qui se pencha pour jeter un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »«
Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. »«
Moi, » dit le petit prince, « je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici.
»« Hum, » dit le roi.
Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un.
Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais.
Non, dit le roi.
Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque.
Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables.
Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord.
Puis, avec un soupir, prit le débarras.
« Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi.
Il avait un grand air d'autorité.
« Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage.
Chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux.
« Ah ah, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince.
Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs.
« Bonjour, » dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau ?»«
C'est pour saluer, » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »«
Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas.
« Frappe tes mains l'une contre l'autre !» conseilla donc le vaniteux.
Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau.
Ça n'est pas plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince.
Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau.
Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire?
Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges.
« Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince.
« Qu'est-ce que signifie admirer ?»«
Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. »«
Mais tu es seul sur ta planète.
Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. »«
Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « En quoi cela peut-il bien t'intéresser ?»
Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement lui-même durant son voyage. Chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie.
« Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines.
« Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre.
« Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince.
« Pour oublier, » répondit le buveur.
« Pour oublier quoi ? »
s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait.
Pour oublier que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête.
Honte de quoi ? S'informa le petit prince qui désirait le secourir.
Honte de boire, acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence.
Et le petit prince s'en fut perplexe.
Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage.
Chapitre 13. La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince.
« Bonjour, » lui dit celui-ci. « Votre cigarette est éteinte. »«
3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. »«
500 millions de quoi ?»«
Hein ? Tu es toujours là ?»«
501 millions de je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi je ne m'amuse pas avec des balivernes, 2 et 5, 7. »«
500 millions de quoi ?» répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête.
« Depuis 54 ans que j'habite cette planète, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, c'était il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait où. Il répondait à un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, c'était il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. »
Je disais donc 501 millions.
Millions de quoi ?
Le businessman comprit qu'il n'avait plus d'espoir de paix.
Millions de ces petites choses qu'on voit quelquefois dans le ciel.
Des mouches ?
Mais non, des petites choses qui brillent.
Des abeilles ?
Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser.
Ah, des étoiles ?
C'est bien ça, des étoiles.
Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ?
501 622 731, je suis sérieux, moi, je suis précis.
Et que fais-tu de ces étoiles ?
Ce que j'en fais ?
Oui.
Rien, je les possède.
Tu possèdes les étoiles ?
Oui. Moi, j'ai déjà vu un roi qui...
Les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent.
Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ?
Ça me sert à être riche.
Et à quoi cela te sert-il d'être riche ?
Acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve.
Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il résonne un peu comme mon ivrogne.
Cependant, il posa encore une question. Comment peut-on posséder les étoiles ?
À qui sont-elles ? Riposta grincheux le businessman.
Je ne sais pas. À personne.
Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé en premier.
Ça suffit ?
Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder.
Ça, c'est vrai, dit le petit prince.
Et qu'en fais-tu ?
Je les gère, je les compte, je les recompte, dit le businessman.
C'est difficile, mais je suis un homme sérieux.
Le petit prince n'était pas satisfait encore.
Mais si je possède un foulard, je puis le mettre autour de cou et l'emporter.
Mais moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter.
Mais tu ne peux pas cueillir une étoile.
Non, mais je puis les placer en banque.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir.
Et c'est tout ?
Ça suffit.
C'est amusant, pensa le petit prince.
C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux.
Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes.
Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines. Car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles.
Le businessman ouvrit la bouche mais trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit.
Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement lui-même durant le voyage.
Chapitre 14. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère.
Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même.
Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est vraiment utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur.
Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?
C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour.
Qu'est-ce que la consigne ?
C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma.
Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?
C'est la consigne, répondit l'allumeur.
Je ne comprends pas, dit le petit prince.
Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour.
Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges.
Je fais là un métier terrible. C'est raisonnable autrefois. J'éteignais le matin, j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir.
Et depuis cette époque, la consigne a changé ?
La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé.
Alors, dit le petit prince.
Alors maintenant, qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute.
Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute.
Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble.
Un mois ?
Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir.
Il ralluma son réverbère.
Le petit prince le regarda et aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne.
Il se souvient des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher. En tirant sa chaise, il voulut aider son ami.
« Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »«
Je veux toujours, » dit l'allumeur.
« Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. »
Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras, et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. »«
Ça n'avance pas à grand-chose, » dit l'allumeur. « Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. »
« Ce n'est pas de chance, » dit le petit prince.
« Ce n'est pas de chance, » dit l'allumeur. « Bonjour !»
Et il atteignit son réverbère.
« Celui-là, » se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman.
Cependant, c'est le seul qui ne paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il lui met un soupir de regret et se dit encore, « Celui-là est le seul dont j'espère faire mon ami. » Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15. La sixième planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ? » ?»«
Je suis géographe, » dit le vieux monsieur.
« Qu'est-ce qu'un géographe ? » ?»«
C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes, les déserts. »
« Ça, c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « C'est enfin un véritable métier. »
Il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse.
« Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»«
Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe.
« Ah !»
Le petit prince était déçu.
« Et des montagnes ?»«
Je ne puis pas savoir, » dit le géographe.
« Et des villes, et des fleuves, et des déserts ?»«
Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe.
« Mais vous êtes géographe ?»«
C'est exact, » dit le géographe, « mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans, des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs, il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur.
« Pourquoi ça ?»
Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop.
« Pourquoi ça ? » fit le petit prince.
« Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une. »«
Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait mauvais explorateur. »«
C'est possible. Donc quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. »«
On va voir ?»«
Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il rapporte des grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. « Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète !»
Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon.
On note d'abord au crayon le récit des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves.
« Alors ?» interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. »
« On ne sait jamais !» dit le géographe.
« J'ai aussi une fleur. »«
Nous ne notons pas les fleurs, » dit le géographe.
« Pourquoi ça ? C'est le plus joli. »«
Parce que les fleurs sont éphémères. »«
Qu'est-ce que signifie éphémère ?»«
Les géographies, » dit le géographe, « sont les livres les plus précieux de tous les livres. »« Elles ne se démodent jamais. »« Il est très rare qu'une montagne change de place. »« Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. »« Nous écrivons des choses éternelles. » »«
Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince.
Qu'est-ce que signifie éphémère ?
Que les volcans soient éteints ou soient réveillés, ça revient au même pour nous, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ?
Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée.
Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine.
Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?
Bien sûr.
Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince. Et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. « Et je l'ai laissée toute seule chez moi !»
Ce fut là son premier mouvement de regret.
Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il.
« La planète Terre !» lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation !»
Et le petit prince s'enfuit, songeant à sa fleur. Chapitre 16. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque, on y compte 111 rois. En n'oubliant pas bien sûr les rois nègres. 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirai qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 472 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie.
Pio aussi s'escamotait dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans l'ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient deux fois par an. Chapitre 17. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une petite place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire un calcul. Ils adorent les chiffres, ça leur plaira. Ne perdez pas votre temps à ce pensum, c'est inutile, vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de cette trompée de planète quand un âne aux couleurs de lune remua dans le sable. « Bonne nuit !» fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit !» fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique !» répondit le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur Terre ?» Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire par ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent. Et ils se turent. « Où sont les hommes ?» reprit enfin le petit prince. « On est un peu seul dans le désert. »« On est seul aussi chez les hommes, » dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il, « enfin mince comme un doigt. »« Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, » dit le serpent. Petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. »« Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, » dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, » dit-il encore. « Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. » Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié, toi, si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète, je puis. »« Oh, j'ai très bien compris, » fit le petit prince. « Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme ?»« Je les résous toutes, » dit le serpent. Et ils se turent. Chapitre 18. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, » dit le prince. « Bonjour, » dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque beaucoup de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-là, se dit-il donc, j'apercevrais d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, » dit-il à tout hasard. « Bonjour, 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 » répondit l'écho. « Qui êtes-vous ? » dit le petit prince. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? » répondit l'écho. « Soyez mes amis, je suis seul. »« Je suis seul, je suis seul, je suis seul, » répondit l'écho. « Quelle drôle de planète, » pensa-t-il encore. « Elle est toute sèche, toute pointue et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. » Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Voilà, la suite demain.